Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le monde n'est pas l'Amérique. Autant le projet Obamacare aura fait parler de lui, autant celui de couverture santé universelle peine à exister. Pour être tout à fait honnête, il a fallu que le nouveau directeur général de l'OMS en fasse la priorité absolue de son futur mandat pour qu'on s'y intéresse. La CSU n'est pourtant pas nouvelle. Le projet apparaît au moment de la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. L'objectif est le suivant, que l'ensemble de la population mondiale ait accès à des services de soins pertinents et de qualité et que leurs coûts n'entraînent pas de difficultés financières pour les usagers. Il y a 2 ans, un rapport de l'OMS et de la Banque mondiale mesurait le long chemin restant à parcourir en faisant le constat que 400 millions de personnes n'avaient toujours pas accès aux services de santé essentiels, sachant que la date de 2030 a été retenue pour la pleine réalisation de cet objectif. Le 23 mai dernier, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus était donc élu à la tête de l'OMS. Quelle sera votre priorité ? Lui demandait le journal Le Monde au surlendemain de son élection. Parvenir à la couverture santé universelle sera tout en haut de mon agenda, répondait celui qui prendra la succession de Margaret Chan le 1er juillet prochain. Car, disait-il, si vous n'êtes pas en bonne santé, alors rien n'est possible. Alors la couverture santé universelle est-elle à portée de main ? C'est le sujet de notre discussion de ce soir en compagnie de Blandine Destremau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche CNRS, spécialiste de la sociologie de la protection sociale, de l'assistance et de l'action sociale dans les pays en développement. Pour discuter avec vous, Christophe Paquet, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de la division santé et protection sociale à l'AFD, l'Agence française de développement. Vous êtes par ailleurs médecin. Vous avez mené plusieurs missions humanitaires avec Médecins sans frontières il y a quelques années de cela. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de l'OMS à Genève. Il s'agit de Marie-Paul Kenny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé pour les systèmes de santé et pour l'innovation. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion avec cette affirmation de l'objectif prioritaire de celui qu'on appelle le docteur Tedros, qui prendra donc la direction générale de l'OMS à partir du 1er juillet. Est-ce que c'est un passage obligé pour tout responsable de l'OMS que de réaffirmer cette priorité de la couverture santé ou sanitaire, d'ailleurs, on peut dire les deux, universelle, ou bien est-ce que ça vous semble marquer, là, peut-être là, le retour d'un objectif qui avait peut-être été mis ces derniers temps un peu plus, comment dire, sous le boisseau, Christophe Paquet ?
Je ne crois pas que ce soit un passage obligé. Je pense qu'il s'est passé un certain nombre d'événements récemment, et en particulier l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2015, qui a montré ou permis de redécouvrir en fait l'importance des systèmes de santé. Parce qu'en fait, la couverture universelle, c'est essentiellement le sujet des systèmes de santé. Et de l'importance du système de santé. L'épidémie a pu se développer parce que dans un certain nombre de pays, ces systèmes étaient en faillite. Et donc, il était important de revenir vers des approches, non plus simplement de lutter contre telle ou telle maladie, mais des approches beaucoup plus inclusives. Et la CSU apporte réellement ce concept.
C'est-à-dire, il y a eu le constat que lutter contre une pandémie de manière isolée, disons, c'est-à-dire exclusive, ça ne suffit pas justement à limiter sa propagation ?
Disons que face aux épidémies, aux pandémies, qui sont toujours des événements très déstabilisants, on a besoin d'un système de santé, c'est-à-dire de structures de santé, d'hôpitaux, de dispensaires, de personnel, de médicaments, d'équipements, et aussi d'une accessibilité financière pour les populations, qui, en routine, lorsque la situation est tiède, fonctionne bien. De façon à ce que quand l'épidémie arrive, on puisse y faire face.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Marie-Paul Kieny, que la crise liée à la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a aussi permis peut-être de prendre conscience de la nécessité de réaffirmer l'objectif d'une couverture santé universelle, même si cet objectif figure, je le disais, dans ceux de l'OMS depuis sa création.
Oui, alors merci beaucoup. Alors d'une part, il est vrai que l'objectif de la santé pour tous existe pour l'OMS depuis la création de l'OMS, mais nous avons beaucoup œuvré au moment des discussions qui ont amené à définir les objectifs de développement durable, donc ce qui nous amène de 2015 à 2030, pour intégrer justement comme cible cette couverture sanitaire universelle. Donc c'est un objectif sur lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant, et effectivement on a été très heureux de voir que cette couverture universelle en santé, qui est donc la cible 3.8, est donc bien intégrée dans les objectifs du développement durable. Donc, qu'en est-il ? Alors, essayons de séparer les systèmes de santé et la couverture universelle. Alors, le renforcement des systèmes de santé, c'est ce que les pays doivent faire pour arriver à avancer dans la couverture universelle en santé. Et cette couverture universelle en santé, nous en avons des évidences, sera critique pour arriver à obtenir des résultats positifs dans l'objectif de développement durable numéro 3, qui est pour la santé, mais également aura des retombées positives dans le numéro 1, qui est pour la diminution de la pauvreté, l'objectif 2 qui est sur l'alimentation, l'objectif 4 sur sur l'éducation, etc., etc. En fait, juste pour dire l'éducation, effectivement, les enfants qui sont en bonne santé apprennent mieux, et donc ça, la santé a un impact sur l'éducation.
Alors peut-être couverture... Marie-Paul Kéné, on va revenir sur cette couverture sanitaire universelle, mais juste pour qu'on soit vraiment dans une discussion et pour qu'on entende aussi notre troisième invité, Blandine Destremo, sur cette question. Christophe Paquet évoquait le fait que il fallait peut-être approcher la question de la santé de manière globale et pas uniquement sur les pandémies. Vous, Marie-Paul Kéné, vous élargissez encore en disant c'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté, ça relève aussi de l'éducation. Est-ce que l'idée, en tout cas, d'une couverture sanitaire universelle, Blandine Destremo, c'est aussi de considérer que la santé, c'est un problème qu'on ne peut pas considérer non plus de manière isolée, mais que ça participe du développement global d'une société.
Oui, et en amont et en aval, la santé, c'est un facteur de production important si on veut développer les arguments plutôt économiques. En fait, c'est un facteur, c'est un investissement rentable, et c'est pas la seule raison pour laquelle on doit promouvoir la santé. Bien entendu, il y a aussi des arguments éthiques, mais l'argument de l'efficacité du point de vue économique est important pour promouvoir la santé, donc le capital humain, la bonne santé des enfants, l'éducation, une main d'œuvre qui sera plus productive, plus capable. Et donc c'est un facteur important à injecter dans le développement. Mais à l'inverse également, la santé est le produit aussi de problèmes de développement, soit de mal développement, soit d'absence de développement, puisque les inégalités de santé en particulier reflètent très largement des inégalités de bien-être, d'accès à la consommation, mais aussi d'accès à la sécurité, des facteurs environnementaux qui sont assez fondamentaux. Donc la santé se retrouve charnière en fait des questions de développement au sens très large, et c'est vrai que le concept de CSU permet de l'aborder de cette façon-là, et non plus d'isoler de manière sectorielle. Avant, on avait la santé, l'éducation, la culture, etc. Maintenant, on voit que les choses sont beaucoup plus intégrées, et en fait, la CSU permet, c'est pas automatique, mais permet une approche beaucoup plus intégrée des questions de santé liées à d'autres questions.
Est-ce qu'on peut dire que là où il y a du sous-développement, en général, il y a un sous-développement du système de santé, Christophe Paquet, que les deux sont liés, qu'il y a une corrélation, en fait?
Oui, une corrélation jusqu'à un certain point. Alors après, il y a des contre-exemples. Cuba est un contre-exemple, ou d'autres pays, mais c'est vrai qu'il y a une corrélation. Alors peut-être un facteur important aussi à prendre en compte aujourd'hui, c'est les attentes des populations qui sont nouvelles. On a à la fois une transition épidémiologique, c'est-à-dire que on a plus simplement des maladies infectieuses relativement simples à traiter. On a pratiquement partout aujourd'hui, avec le vieillissement des populations, l'évolution des modes de vie, de nouvelles maladies qui deviennent de plus en plus fréquentes. C'est le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteuses à prendre en compte. Donc ça, c'est aussi un élément aujourd'hui qui fait qu'on a besoin de ces approches beaucoup plus inclusives quand on parle de dispositifs sanitaires, que c'était le cas jusqu'à il y a 20 ou 30 ans. Et puis on a une émergence aussi dans beaucoup de pays avec le développement économique de classes moyennes qui ont aussi des attentes vis-à-vis de la santé qui sont différentes. Les gens veulent se soigner, veulent que leurs enfants soient soignés correctement, veulent avoir une assurance maladie, etc. Et c'est aussi des phénomènes qui concourent aujourd'hui à ce que cette couverture universelle soit un petit peu au sommet des agendas, non seulement du développement durable, mais aussi des agendas politiques dans beaucoup de pays.
Blandine Destremau, avant de repasser par Genève et l'OMS, je vous voyais réagir à la mention de Cuba. Il se trouve que c'est un des pays sur lesquels vous travaillez plus particulièrement. Ça serait l'exemple d'un pays où on peut développer un système de santé performant sans que le pays soit considéré comme un pays développé.
Je ne veux pas me prononcer sur est-ce que Cuba est un pays développé ou pas, mais certainement c'est un pays pauvre. Maintenant, ce qu'il y a... Oui, Cuba est des performances de santé très élevées. Je pense que les facteurs qui ont permis ces performances de santé, qui sont mesurés par de nombreux indicateurs, notamment l'espérance de vie, mais aussi la mortalité infantile, la mortalité maternelle. Donc les facteurs qui ont vraiment permis ça, c'est certainement une volonté politique qui était résolue, en fait, par l'autoritarisme du régime, qui a permis de mettre en place de manière... intégrer à la fois vertical et horizontal un système de santé qui en a fait une priorité, mais aussi que cette priorité soit une réduction des inégalités. Parce que je pense que les inégalités socio-économiques et en santé également, je pense qu'on va en reparler, mais sont un obstacle très important à la fois à la mise en place du système de santé, mais à la résolution des inégalités. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vicieux. Plus il y a d'inégalités, plus c'est difficile de concevoir des systèmes de solidarité qui vont permettre de faire avancer tout le monde plus ou moins au même rythme. Et plus les inégalités en santé sont fortes, et plus c'est coûteux en fait, de revenir sur ces inégalités. Donc c'est vraiment... je crois que la santé et l'avancée aussi de la CSU, c'est d'avoir fait réfléchir les inégalités, non pas comme un accident de parcours, mais comme un facteur qui est complètement intrinsèque à l'objectif qu'on veut réaliser.
Alors justement, sur cet objectif, Marie-Paul Kieny, quand on promeut la CSU, cette couverture santé universelle, on est d'abord dans une lutte contre la pauvreté ou on est d'abord dans une lutte contre les inégalités, à moins que ce soit finalement ce double objectif qui soit recherché?
Ce qui sort très, très fortement, c'est la lutte contre les inégalités et arriver à aller vers un certain universalisme. Alors, il est sûr que tous les pays ne sont pas au même niveau vis-à-vis d'une introduction, d'une couverture universelle en santé. Alors, les pays qui ont cette couverture depuis longtemps, comme les pays en Europe, la France par exemple, doivent se battre pour arriver à maintenir ce système avec des coûts qui explosent dans le domaine des médicaments par exemple. Mais les pays les plus pauvres, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer. Ce qu'il faut, c'est essayer de choisir d'un point de vue du choix de la société, quelles sont les premières cibles qu'on va essayer, pour lesquelles on va donner une couverture, et la plupart des pays s'intéressent à la santé maternelle et infantile d'abord. Et ce qu'il faut aussi, c'est prendre une attention particulière aux populations les plus pauvres. Donc pour commencer, il faut vouloir une volonté politique, il faut identifier les gens les plus pauvres, et c'est ceux-là qu'il va falloir servir en premier. Et il faut définir le portfolio, disons le portefeuille d'intervention qu'on va commencer à vouloir couvrir pour démarrer.
Mais vous dites, Marie-Paul Kieny, il ne suffit pas d'être riche pour commencer, mais ça demande quand même un certain nombre de moyens. Est-ce que le financement justement d'un système de santé pour essayer d'atteindre cet objectif de la CSU, ça n'est pas le premier obstacle qui empêche peut-être la réalisation de cet objectif ?
Alors, quand vous voyez les pays qui ont mis en place une couverture universelle, vous commencez avec le Japon. Le Japon a commencé à mettre en place une couverture, une volonté politique, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où la situation économique était catastrophique. Et malgré tout, la volonté politique les a amenés à mettre ça en avant. Un autre pays qu'on cite souvent, c'est la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, il est vrai, a bénéficié dans les dernières années d'une croissance économique significative, mais quand ils ont commencé petit. On commence à essayer, comme je dis, de couvrir la femme et l'enfant. Les moyens, il y en a qui sont disponibles. Souvent, les moyens ne sont pas bien utilisés ou ne sont pas effectifs. Et c'est une question, encore une fois, de décision politique dès la part des pays, de vouloir investir dans la santé. Les chiffres qu'on donne, il faudrait que chaque pays investisse au moins 5% de leur produit intérieur brut dans la santé. C'est pas énorme, 5%. Combien investit-on dans des pays plus riches? Alors, pour des pays pauvres, ça va être une petite somme, mais ça permet de commencer.
Vous faites ce même constat, Christophe Paquet, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément le niveau de richesse qui va déterminer, au moins au départ, la réalisation du projet, de l'objectif CSU.
Je crois qu'effectivement, l'objectif politique est essentiel, enfin, la mobilisation politique est essentielle. Après, comme l'a dit Marie-Paul Kieny, le secteur de la santé est malheureusement extrêmement sous-financé aujourd'hui, en Afrique en particulier, où très peu de pays consacrent à la santé les, je dirais, les minimums standards qui permettraient d'offrir à la population des packages de soins suffisants. Donc il y a un enjeu de financement qui est important. C'est malheureusement pas le seul enjeu. Il y a aussi un enjeu, par exemple, de ressources humaines qui est fondamental. Quand on parle de santé, on parle d'abord de système de santé, de la capacité des ressources humaines.
Ressources humaines, hein. Rapport récent de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui faisait ce constat. Il manque 50 millions d'emplois décents pour faire face aux besoins mondiaux de soins essentiels. C'est-à-dire il y a l'équipement du soin qui peut être fait de manière informelle dans les familles, mais voilà, en personnel de santé, il manque énormément de personnes. Donc, système de formation, d'éducation à mettre en place.
Et comme ce déficit en ressources humaines est aussi dans les pays du Nord, on a un drainage des ressources humaines du Sud qui sont attirées par les salaires offerts dans le Nord ou dans d'autres pays. Donc ça aggrave encore cette situation. Et puis, ce n'est pas simplement de former des gens, ce n'est pas simplement de payer des salaires, c'est aussi de convaincre des gens d'aller travailler dans des zones rurales isolées, alors qu'aujourd'hui, on a une attraction forte des mégapoles. Donc, ce problème des ressources humaines est fondamental. Il est très difficile à résoudre pour beaucoup de pays aujourd'hui.
Problème de ressources humaines et problème aussi donc pour convaincre de la nécessité auprès des sociétés de mettre en place ce genre de système pour les financer. Il y a par exemple la fiscalité, il y a aussi des modes qui sont plus des modes assurantiels comme on peut connaître en France. Blandine Destremau, est-ce que en tout cas la dimension politique est une dimension essentielle pour comprendre peut-être les difficultés à atteindre cet objectif fixé il y a plus d'une soixantaine d'années?
Alors la dimension politique, elle est essentielle de différentes façons. Elle est essentielle, déjà, si on veut imaginer qu'un système de santé peut réduire les inégalités seulement à travers une solidarité assez large, c'est-à-dire entre les riches et les plus pauvres, entre les malades et les bien portants, entre les familles avec beaucoup d'enfants, les familles sans beaucoup d'enfants, entre les personnes âgées et les jeunes, toute cette redistribution qu'opère un système de protection sociale finalement. Il faut encore que les gens acceptent, les gens notamment ceux qui ont des ressources, ceux qui ont le plus de ressources ou qui estiment avoir le moins de risques, que les gens acceptent cette redistribution qu'on fait en France à travers le système d'assurance maladie naturellement. Donc ça, c'est déjà le premier facteur politique. Dans les pays où il y a une fragmentation sociale et économique trop importante, et raciale aussi, parce que c'est quand même assez important, le nous de cette solidarité est trop fracturé pour que les gens qui ont les moyens, qui devraient mettre la main à la poche le plus parce que c'est eux qui ont le plus de ressources, dans un système de solidarité, acceptent de le faire ou en tout cas c'est remis en cause. Donc déjà de ce côté-là, c'est les inégalités s'entremêlent avec le facteur politique. Mais il y a aussi la légitimité de l'État à mettre en place un tel système. Donc du côté du financement, l'État peut effectivement mettre en place un système fiscal. Un système fiscal, c'est pas une grosse caisse avec de l'argent dedans. Ce sont des mécanismes qui doivent être légitimés pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a les ponctions fiscales, on peut fiscaliser beaucoup de choses différentes, on peut fiscaliser la propriété, on peut fiscaliser les téléphones portables, c'est souvent une source d'ailleurs à laquelle puisent beaucoup d'États de pays en développement. Ce que préconise la CSU, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le prépaiement, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas payer au moment même où ils sont malades. C'est pas je suis malade, je dois trouver l'argent, donc vendre ma terre, vendre ma voiture, hypothéquer ma maison pour payer.
C'est que sera un facteur soit d'appauvrissement, soit de non-recours aux soins, j'imagine.
Et ça, c'est une réflexion très approfondie dans la CSU que je trouve très intéressante, où vraiment on veut lutter contre les dépenses catastrophistes. Il y a un indicateur qui mesure les dépenses catastrophiques de santé de la part des ménages. Combien de ménages ont des dépenses catastrophiques de santé? Quel est le pourcentage des dépenses? Et donc, on encourage le prépaiement, c'est-à-dire soit l'achat d'assurance, soit le prépaiement fiscal. Donc, en fait, on donne de l'argent. Soit des systèmes qui sont des systèmes gérés de santé, en fait, des managed health systems, qui sont des espèces de pools dans lesquelles on a une participation. Et ça, c'est à la fois très important, parce que ça touche à la protection sociale, et en même temps, un énorme marché. Donc c'est là aussi où il peut y avoir des difficultés.
Et alors, quel est le rôle, justement, par rapport à ce travail de conviction, voire de prosélytisme à faire auprès des États et des sociétés? Quel est le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, Marie-Paul Kieny? Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous avez un rôle de conseil, de préconisation, avec peut-être des solutions clés en main, ou que vous adaptez en fonction de l'identité des différents pays? Comment ça se passe?
Alors, il n'y a pas de solution qui convient à tout le monde. Il y a l'historique dans les différents pays, il y a un système basé de santé basé sur un modèle francophone, par exemple en Afrique, va être très différent de ceux qui sont basés sur un modèle anglophone, de par l'héritage, en fait, de l'histoire. Mais ce que nous faisons, c'est que nous récoltons les meilleures pratiques, nous informons, nous assurons les échanges entre les différents pays pour qu'ils puissent voir. Il y a aussi un aspect de mentoring, hein, aussi, de voir qu'est-ce qui marche où et de voir quels sont les modèles qu'on peut suivre, qui sont des vraies solutions, et quels sont les modèles qu'il ne faut absolument pas suivre. Alors, on parlait tout à l'heure de pooling, ça veut dire qu'il faut mettre les ressources ensemble. On sait qu'effectivement, pour avoir un système de solidarité qui marche, il faut qu'il y ait une base large. À partir du moment où on permet de ceux qui sont les plus riches d'échapper au pooling, en fait, c'était dit juste à l'instant, on n'a plus que les plus pauvres et ils n'ont rien à mettre ensemble.
Et ça peut être quoi, Marie-Paul Kenny, un système à ne surtout pas suivre? C'est-à-dire, quels sont les, pour vous, ou quel serait le contre-exemple à ne pas suivre? Il y a eu une tentative de mise en place de la CSU, mais qui se serait soldée par un échec quasi total.
Alors, ce qui n'est pas bon à suivre, ce sont des systèmes de petits fonds, de petits pools qui ne se reversent pas les uns dans les autres, dans lesquels on a des systèmes de couverture qui sont vraiment très, très fragmentés dans la société. Alors ça, c'est un modèle à ne pas suivre parce que il y a ceux qui sont bien couverts et ceux qui sont moins bien couverts. Et donc, il faut voir aussi que l'accès à la santé et l'accès égalitaire à la santé est aussi un facteur de cohésion sociale. Donc la fragmentation est mauvaise pour cela.
Facteur de cohésion sociale, donc facteur de stabilité politique. Est-ce que c'est ça, ce sont des arguments qui portent Christophe Paquet dans le cadre de l'aide au développement? Je ne parle pas seulement de l'aide française, mais enfin, elle en fait partie. C'est-à-dire, est-ce que pour convaincre d'investir aussi dans ces systèmes de santé, il faut passer par l'argument selon lequel, ben voilà, un pays où ces systèmes seront bien développés, créeront des sociétés qui seront peut-être plus stables et qui donc par contre-coup poseront peut-être moins de problèmes à ceux qui les financent, à ceux qui les aident.
C'est toute la difficulté de vendre la santé dans le cadre de l'aide au développement. Parce que la santé est perçue par beaucoup d'États comme un centre de coût. On a eu quand même toute la période des ajustements structurels dans les années 90, etc., où on a diminué le nombre de fonctionnaires, etc., et c'était vraiment les politiques qui étaient promues. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'il faut réinvestir dans les systèmes de santé, dans les systèmes éducatifs, etc. Et c'est difficile. Donc il y a vraiment un énorme travail de plaidoyer pour montrer, comme ça a été dit, que la santé, eh ben, c'est un investissement sur le plan économique, ça permet le développement économique, que quand on n'investit pas dans les systèmes de santé, on court des risques, je reviens sur Ebola par exemple. Le système de santé, c'est aussi des emplois, et c'est un secteur de création d'emplois, non seulement d'emplois très qualifiés comme les médecins, mais aussi de beaucoup d'emplois non qualifiés, donc c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui, surtout dans des sociétés vieillissantes. Donc il y a un certain nombre d'arguments qu'il faut continuer à mettre en avant pour faire cette promotion de la couverture universelle et surtout de l'investissement dans les systèmes de santé et non pas simplement de les percevoir comme des coûts.
Alors je rappelle la question que nous posons ce soir, hein, la couverture santé universelle est-elle à portée de main? Nous en discutons avec Christophe Paquet, responsable de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement, avec Marie-Paul Ekieni, qui est la sous-directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour les systèmes de santé et l'innovation, et Blandine Destromo, sociologue, directrice de recherche CNRS, qui travaille notamment justement sur les systèmes de santé dans un certain nombre de pays à l'étranger, notamment Cuba, notamment le Yémen. Qui connaît une situation particulièrement difficile aujourd'hui. Je vous voyais réagir à ce qui venait d'être dit sur la façon de convaincre peut-être justement les sociétés à de la nécessité et de l'intérêt pour elles-mêmes de mettre en place, voilà, des systèmes de santé qui s'adressent à tous et qui permettent à tous, voilà, de se faire soigner sans que ça les fragilise dans leur vie quotidienne.
Dans les pays dits en développement, même s'ils sont parfois en voie de sous-développement, comme c'est le cas pour le Yémen, l'État a souvent, à une période de l'histoire, notamment après les indépendances, pour les pays qui ont été colonisés, joué un rôle de développeur. En fait, c'est l'État développementiste ou développementaliste qui a souvent mis en place des systèmes assez centralisés d'éducation et de santé. Et à ce moment-là, y compris au Yémen, donc que j'ai étudié pendant plusieurs années, la santé a fait des bons et les indicateurs de santé se sont beaucoup améliorés. C'est vrai que les ajustements structurels sont passés par là, qui ont incité les États à se retirer d'une grande partie de leur secteur d'intervention et qui ont, dans le meilleur des cas, ouvert la voie à la pénétration de firmes marchandes privées et, dans le pire des cas, ouvert la voie à rien du tout, donc laisser les États, les systèmes dans une grande déshérence où parfois les humanitaires, du coup, occupent une place non négligeable. Je pense que le concept de CSU, en fait, c'est un concept de progression, donc d'engagement. Et le Yémen était, avant le début de la guerre, en fait, en 2011, était un pays qui était qualifié en chemin vers une couverture de santé universelle. Alors qu'effectivement, il était beaucoup moins loin que Cuba, beaucoup moins loin que d'autres pays dont parlait Madame Kenny, par exemple. Et pour autant, il était qualifié en chemin parce qu'il y avait un engagement public qui ramenait à l'État quand même ses bénéfices de légitimité que constitue le fait de se présenter comme développeur. Et les gens, effectivement, ont développé une demande de santé que moi, j'ai vu évoluer au cours des années, qui est devenue importante. Ils sont sortis d'une vision assez fataliste des malheurs de santé et pour demander à l'État, comme duty bearer, en fait, comme obligataire, de fournir des systèmes de santé. Bien entendu, ça, c'est important de le souligner aussi. La guerre au Yémen, comme dans beaucoup, beaucoup de pays, ravage, surtout que les bombardements apparemment ciblent explicitement les hôpitaux au Yémen, ravage les systèmes de santé et fait faire un recul absolument dramatique.
Alors, s'agissant du Yémen, donc on était dans une phase de progression. Aujourd'hui, on est dans une phase de régression. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue plus global par rapport à cet objectif de CSU, Marie-Paul Kenny? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une phase toujours de progression? J'évoquais au tout début de l'émission ce rapport de l'OMS et de la Banque mondiale daté de juin 2015. Il y en a eu peut-être depuis, mais enfin, en tout cas, le dernier qu'on a trouvé, c'est celui de 2015. 400 millions de personnes qui n'ont pas accès aux services de santé essentiels. Est-ce que ça traduit le fait qu'on est encore très très loin d'atteindre l'objectif ou bien au contraire qu'on s'y achemine de manière progressive?
Je pense qu'on s'y achemine de manière progressive. Alors il va falloir continuer à avoir un plaidoyer politique. Il faut que les populations le demandent. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'arriver à développer en fait la voix du citoyen qui saisit son gouvernement pour exiger des soins maladie abordables. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a d'autres arguments qui vont venir, et dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'argument économique. Quels sont les secteurs qui sont en croissance actuellement? Alors, dans certains pays, on veut relancer l'industrie minière, mais quand on voit le bond en avant d'un point de vue économique, on a l'environnement, la croissance verte. Quand on a travaillé avec le gouvernement français, avec le président de la République, sur un thème de emploi santé et croissance économique, on voulait utiliser croissance blanche, mais enfin, ça passait pas très bien. Mais les grands économistes américains, comme Joe Stiglitz, dit qu'il ne serait pas étonné que dans quelques années, aux États-Unis, par exemple, la santé, l'industrie de la santé, tout le secteur santé représente 25 à 30% du PIB. Donc, en fait, l'investissement, il faut arriver à sortir la santé de cette maladie, d'être un coût, pour voir ça comme un facteur de croissance et par là même donc pousser aussi les gouvernements à investir pour arriver à promouvoir la couverture santé universelle.
Pousser les gouvernements à investir, est-ce que c'est justement la façon dont travaille aujourd'hui l'Agence française de développement, Christophe Paquet? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des investissements spécifiques dans des systèmes de santé qui sont faits?
Oui, alors c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est notre métier, hein, puisqu'on est une agence d'aide bilatérale, donc on travaille avec des gouvernements dans beaucoup de pays, dans le domaine de la santé.
Ça peut prendre quelle forme, justement, ce travail et ces investissements?
Alors, ça prend différentes formes. On est dans un dialogue avec ces gouvernements, on accompagne, on appuie des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on n'impose pas un modèle, hein, quel qu'il soit, et après on répond aussi à des requêtes. Par exemple, on reconstruit un certain nombre d'hôpitaux, on forme des personnels de santé, on finance des dispositifs d'assurance maladie, de mutuelles, de gratuité des soins. dans un certain nombre de pays, pour ne citer que quelques exemples. Une fois de plus, cette dimension politique est importante. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans un certain nombre de pays où on travaille, en Tunisie par exemple, c'est très net, en Côte d'Ivoire aussi, c'est ces attentes des populations, ces attentes nouvelles des populations. Les populations ne supportent plus de ne plus avoir un minimum d'accès aux soins. Et donc ça devient un enjeu politique, ce que la santé n'était pas ces dernières années. Ça devient un enjeu politique avec le risque aussi peut-être après de vouloir aller trop vite. Parce que voilà, il y a des élections, il faut faire des choses, il faut montrer que. Et à ce moment-là, on bascule brutalement d'un désintérêt des gouvernements vers le fait d'aller très vite sur des choses qu'il faut qu'ils se voient, etc. Et donc on va passer à côté de l'objectif d'universalité, de s'intéresser aux plus pauvres, comme on le disait précédemment.
Blandine Estremo.
Je voulais reprendre ce que Mme Kenny a dit sur l'industrie de la santé. Effectivement, la santé, c'est rentable. C'est rentable parce que les gens sont en meilleure santé, donc en meilleure capacité productive. C'est aussi rentable parce que c'est un très gros marché. Et je crois que c'est là, j'ai fait allusion tout à l'heure, où il y a une tension importante au sein même de la CSU. C'est-à-dire que transformer les systèmes de santé en systèmes rentables pour des firmes qui investissent soit dans la vente de médicaments, soit dans l'équipement, soit dans la formation, soit dans l'offre simplement de package en fait, de santé, c'est aussi... mettre un peu le verre dans la pomme de la santé, si on peut dire, puisqu'il faut que ces firmes, dans un objectif de santé publique et de couverture universelle, se plient à un certain nombre de conventions, comme des tarifications, la question de la gestion des prix, une offre raisonnable en termes de médicaments. Donc il y a un certain nombre de pays qui se sont engagés dans faire un peu le ménage en termes d'offres de médicaments et aussi en termes de prescriptions pour éviter que, marché pour marché, on vous fasse consommer le plus de médicaments possible et que ce soit considéré comme un bien de consommation. Donc il y a aussi un bras de fer qui doit être engagé, et je crois que l'OMS est très engagée sur ce chemin-là, et donc qui met un peu, qui crée une ambivalence en fait entre la santé est un marché, investissez dedans, mais d'un autre côté, pour en faire un objectif universel, pas trop fragmenté et pas trop inégal, vous allez devoir vous plier à des régulations publiques. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays, notamment en Inde, par exemple, dans lesquels c'est la règle du jeu aujourd'hui.
Ce sont des tensions que vous pouvez constater, vous, sur le terrain, Christophe Paquet ?
Absolument. On a, par exemple, travaillé avec la Colombie. On a financé la réforme de l'assurance maladie en Colombie. Et la demande, l'objet de la réforme, en fait, c'était de reconstruire de la régulation. Et c'est pour ça que les Colombiens étaient intéressés par un échange et un dialogue technique avec un certain nombre de leurs homologues en France, en particulier l'Agence du médicament, par exemple, pour voir comment en France on fixait le prix du médicament en tenant compte du bénéfice thérapeutique ou d'un certain nombre de paramètres. C'était des sujets très techniques, mais qui intéressaient nos homologues colombiens parce qu'ils souhaitaient remettre un petit peu de régulation dans un système dont ils voyaient les dérives, et en particulier les dérives marchandes.
Marie-Paul Kenny, la question de la régulation, c'est pas quelque chose que j'ai vu apparaître dans les critères d'évaluation des objectifs de la CSU. Est-ce que ça en fait partie malgré tout ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas suffisamment cherché ? Ou bien est-ce qu'à l'OMS, on considère que ce qui compte finalement, c'est que la globalité, on va dire, des sociétés ait accès aux soins, et que finalement, peu importe si par quel système ça passe ?
Non, il y a des modèles qui mettent en œuvre une bonne partie de secteur privé. Et ça, c'est variable dans différents pays. Mais la régulation est indispensable. Et pour les systèmes de santé, donc qui sont les systèmes qui permettent de délivrer des services, que ce soit des soins d'ailleurs ou bien des façons de promouvoir la santé, la prévention, etc. On définit classiquement un certain nombre d'éléments. On en a 6 et la gouvernance est le tout premier. C'est la gouvernance qui est clé, et la gouvernance est une gouvernance de par du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit fixer les objectifs et qui doit donner leur place aux opérateurs privés. C'est sûr que si on laisse les opérateurs privés, ça devient le Far West et on n'arrive plus à une CSU. Mais la façon dont on va pouvoir voir que le système est bien géré et bien gouverné, c'est de voir la proportion de ceux qui sont les plus pauvres qui ont accès aux soins.
Justement, les conditions de l'évaluation de l'avancée de cet objectif, c'est quoi? C'est-à-dire c'est l'état de bonne santé d'une population, ce sont les infrastructures, c'est la façon dont l'organisation, dont les systèmes de santé sont organisés. Comment est-ce que vous réussissez, ou comment est-ce que vous pourrez dire, par exemple, peut-être en 2030, puisque c'est la date qui, je crois, est toujours la date officielle, ça y est, on a réalisé notre objectif de couverture santé universelle, Marie-Paul Kenny?
Alors, on a un certain nombre du point de vue de la couverture, des couvertures de services. Hein, on définit un certain nombre de services qui sont des services indicateurs. Et on mesure donc, et ces services vont à la fois dans le côté de la promotion de la santé, par exemple la fin du tabagisme, hein, pour noter, ça en fait partie, jusqu'aux soins de réhabilitation, de palliation, en passant par la prévention et les soins curatifs. Et donc on a un bouquet, si on peut dire, d'interventions pour lequel on va regarder la disponibilité de ces interventions de bonne qualité, à la fois au niveau de la population d'un pays, mais aussi au niveau des franges de la population qui sont les plus pauvres, qu'on va comparer aux plus riches. Alors ça, c'est pour la couverture santé, et pour la couverture, d'un point de vue protection financière, on va regarder aussi le nombre de personnes qui entrent dans des situations de ruine dans les différentes aussi strates de la population dans les différents pays. Donc on suit la couverture financière, de même que la couverture en matière de service.
C'est une évaluation à laquelle vous participez dans le cadre des actions de développement, Christophe Paquet?
Alors, bien évidemment, on essaie d'évaluer nos programmes et c'est toujours très compliqué. On l'a fait récemment sur un programme de forfait obstétrical, c'est-à-dire de mutualisation du risque lié à l'accouchement en Mauritanie. Et on s'aperçoit que réellement, pour répondre aux questions justement qui est de voir ce qui se passe dans des populations exclues, ça demande de mener des enquêtes spécifiques sur le terrain qui sont longues, qui sont coûteuses, qui méthodologiquement sont pas toujours totalement n'apportent pas toujours les résultats attendus. Donc c'est fondamental. Mais c'est vrai qu'on s'engage avec la CSU sur des actions d'évaluation beaucoup plus complexes que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent, quand l'essentiel de l'aide était à partir d'une offre où on comptait le nombre d'enfants vaccinés, le nombre de malades du sida mis sous antirétroviraux, et on ne regardait pas les populations qui n'étaient pas couvertes, en fait.
Blandine Destremont, on est presque à la fin de cette émission. Oui. On a beaucoup parlé d'approche nationale dans cette mise en place de la CSU. Est-ce qu'il faudrait aussi l'envisager de manière d'être encore plus globale, c'est-à-dire en considérant qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et avec la circulation des personnes, on est aussi peut-être de plus en plus confronté à des problèmes sanitaires globaux, mondiaux?
Oui, je pense que Christophe Paquet pourra en parler peut-être mieux que moi, mais bien évidemment, le cadre national est celui qui s'impose dans une très large mesure du côté financement, légitimité politique, mobilisation politique, solidarité, mais il n'exclut pas le cadre international, ni en termes d'aide, ni par exemple l'AFD et l'OMS en sont des exemples, mais aussi en termes de circulation des maladies, des pathologies, des gens, les migrations, les réfugiés, la question de l'afflux des réfugiés pose des questions de santé, pas seulement de santé épidémiologique, mais aussi de santé mentale, d'équilibre, qui sont gigantesques et qui créent un fardeau en fait sur les pays qui reçoivent ces populations. Donc bien sûr, il y a aussi une approche en termes de responsabilité globale qu'on doit maintenir et qu'on maintient aussi dans les questions de l'environnement, sur lesquelles j'insiste un peu, mais c'est aussi des déterminants de santé en amont qui ne sont pas forcément palliatifs, mais qui sont très largement préventifs, sur lesquels, malheureusement, l'AFD et l'OMS, et moi encore moins, on est très peu capables d'intervenir.
Bah, vous avez au moins été capable de nous éclairer sur ce sujet dont j'ignorais l'essentiel des grandes lignes, je dois dire. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Christophe Paquet, Blandine Destremont et Marie-Paul Kieny, qui se trouvaient dans les studios de l'OMS à Genève. Merci à vous trois. Cette discussion, vous pouvez la retrouver comme chaque soir sur notre site internet, franceculture.fr, la page du Gramouze. Vous pouvez la réécouter, la télécharger, la commenter également sur notre fil Twitter. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barré, avec à la prise de son Jean Frédéric.